This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Vous avez bien trouvé?
Oui, très bien.
Bonjour, bonjour, enchantée.
Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
Ressemblez à mes parents?
Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Moulinex, libère la femme, libère la femme, libère la femme.
Vous aviez 20 ans.
Bah, qui on va fréquenter? Les grands-mères?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse et aujourd'hui, nous allons chez Florence.
Si j'ai accepté, c'est que je veux absolument témoigner de quelque chose que les femmes ont oublié. Comme j'ai l'impression d'être une génération charnière et qu'on ne se rend pas du tout compte de ça, de ce qu'il y avait avant, et que j'ai eu cette chance, moi je me sens comptable de cette chance et je voudrais témoigner pour ça.
Vous voulez boire quelque chose? J'ai du jus d'ananas ou du café ou qu'est-ce que vous...
Florence, c'est une rencontre qui change le cours d'une vie. Pour la militante que je suis, échanger avec Florence était un vrai cadeau. Elle raconte le début du mouvement féministe comme elle l'a vécu. Elle rappelle ce qu'est la joie militante et nous permet de ne pas oublier d'où nous venons. C'est grâce à des Florence que j'ai pu avoir un enfant quand je voulais. C'est un épisode particulier car Florence est un peu une star. C'est donc notre première mamie connue. On a pour habitude d'enregistrer des anonymes et bien aujourd'hui, vous écouterez la grande Florence. Bonne écoute.
Je suis née en 1948. Mes parents sont parisiens. Et j'ai vécu à Paris presque toute ma vie.
C'était quoi, grandir à Paris juste après la guerre?
C'était la crise du logement. Donc on était quatre enfants dans la même pièce, dans la même chambre. Et c'était voilà. Et puis mes parents n'étaient pas très riches. Et avoir autant d'enfants, c'était... Après on a eu une cinquième sœur. Avoir autant d'enfants, c'était des problèmes d'argent. J'ai souvenir d'une enfance où on était gêné par l'argent. Et en tout cas, de cette vie-là, je ne voulais pour rien au monde. La vie de ma mère avec les maternités si rapprochées, puisque mes parents se sont mariés, mon père avait 22 ans, ma mère 21 ans. Et 5 ans après, c'est-à-dire quand ma mère avait 25 ans et mon père 26 ans, ils avaient 4 enfants. Et après, quand j'ai pu l'interroger, ma mère, je lui ai dit « Comment vous avez fait après pour que ça s'arrête ?» Alors elle a dit « À la quatrième, je suis allée demander de l'aide au curé en disant « C'est plus possible. » Et le curé a dit « Vous devez accepter tous les enfants que Dieu vous envoie. » Alors j'ai rompu avec l'Église. C'est cette condition-là qui a déterminé mon engagement dans la vie. Et puis, on était tellement dans un petit appartement qu'ils ne pouvaient pas faire chambre à part. Mais après, ils ont déménagé dans un plus grand appartement, après, quand je me suis mariée, et ils ont fait chambre à part. Et ils ont divorcé après. Ça n'a pas dû arranger, puisqu'ils s'étaient rencontrés 3 mois avant leur mariage. Ils se sont rencontrés, plutôt, 3 mois, là. Ils se sont mariés, et moi, je suis née 9 mois et 15 jours après leur mariage. Donc, je suis née 1 an après leur rencontre. C'est quand même fou. Dès que j'ai eu 6, 7, 8 ans, j'ai dit que je ne voulais pas d'enfants. Alors ça, c'était radical. Je détestais les enfants, je détestais la promiscuité. La seule chose que j'aimais dans la vie, c'est lire, dans la solitude. Et je ne savais pas ce que c'était que la solitude et le silence. J'ai eu une enfance très pénible d'un point de vue matériel. Et je suis tellement heureuse maintenant dans ma vie, où c'est le calme et le silence, et je peux écrire et lire tant que je veux, tout ce que je veux, et je fais que ça toute la journée. J'ai une vie merveilleuse. Une vie que j'ai forgée moi-même, une vie que j'ai décidée. Alors, au début, je ne voulais pas d'enfant, et ma mère rigolait bien et me disait « Ah, c'est drôle, c'est déjà la même chose que je disais à ma mère, je ne voudrais pas d'enfant. » Mais elle me comprenait très très bien. On a toutes fait des études, oui, on était très poussées à faire des études, parce qu'on était plutôt intelligentes et on était valorisées pour ça. Et comme on n'avait pas de frères, ça j'ai découvert ensuite, c'est un atout. Oui. Parce qu'on n'a pas tout de suite découvert les contraintes qu'on impose aux filles et pas aux garçons. On n'avait pas le sentiment d'injustice qu'ont beaucoup de filles qui ont des frères. On était traitées de la même manière toutes, c'est-à-dire vous devez réussir à l'école. Et on a toutes fait des études supérieures. Je rêvais d'être écrivaine, mais c'était un rêve, à l'époque on disait écrivain bien sûr, mais c'était un rêve inaccessible parce que je lisais que des romans, donc je voyais bien que je n'avais pas l'imagination des auteurs que je lisais. Ça me faisait rêver, mais sans que je puisse écrire moi-même. Moi j'écrivais d'autres choses, et puis c'est plus tard que j'ai découvert que ma vocation d'écrivaine, c'était dans la vulgarisation, la transmission, la traduction de choses compliquées en choses simples. Ça, il m'a fallu du temps pour comprendre que j'avais l'esprit de synthèse. C'est ma mère qui m'a aidée, parce que j'étais très très bonne en français, et elle me félicitait pour ça. Elle me disait, t'as une capacité de synthèse, et t'as une capacité d'explication. Ça m'a montré plus où était ma voix. Mais c'est longtemps après que j'ai trouvé ma voie d'écriture. D'abord, j'ai fait des études et j'aimais tellement ça que j'en ai fait pendant des années et des années et j'aurais bien fait toute ma vie des études. J'aimais ça, j'apprenais des tas de choses différentes. J'ai fait une licence de russe, une maîtrise de russe, j'ai commencé une thèse de russe, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait Langzhou en chinois, j'ai commencé plein de langues et j'aimais tellement ça parce que j'aimais passer des examens, les réussir. J'ai réussi tous mes examens sauf le permis de conduire. Du premier coup, je veux dire, le permis de conduire, ça m'a fait un bien d'échouer parce que j'ai vu que j'étais vraiment pas douée pour les choses matérielles, j'étais douée que pour les choses intellectuelles. Donc ça m'a ramenée à un juste niveau, c'est-à-dire que dans la famille, j'étais toujours considérée comme l'intellectuel à qui il manquait quelque chose, et c'est vrai, ça me manque.
Et pourquoi le russe ?
Le russe, c'est par hasard, pas tout à fait par hasard, parce que ma grand-tante était professeure de russe, mais parce que mes parents, qui me voyaient un peu comme une bête savante, disaient « Oh bah tiens, on va lui faire apprendre ça, c'est compliqué. » Voilà. Mes parents, ça les amusait de me faire réciter de la poésie, de me faire me produire dans différents sujets. Mais bon, après, j'ai aimé le russe. J'ai aimé passionnément le russe. Je suis allée plusieurs fois en Russie. J'ai trop de peine de voir ce pays, tellement. Ces gens tellement merveilleux, prisonniers de ce régime épouvantable. C'est vraiment... J'ai perdu toutes mes illusions sur la Russie, alors que la première fois que je suis allée en URSS, j'étais pleine d'illusions sur la situation des femmes, parce que tout ce que je lisais, c'était magnifique, le féminisme réalisé, tout ça. Quand je suis revenue, j'avais perdu toutes mes illusions. J'avais 18 ans et j'avais vraiment compris ce que c'était.
À 18 ans, vous lisiez déjà des...
À 18 ans, j'étais en licence de russe, oui. J'ai eu mon bac à 16 ans. Et il y avait une propagande dingue pour l'égalité réalisée au pays des soviets. Et j'y croyais, évidemment, j'y croyais, j'avais aucune autre information. Pour trouver des sources sur les femmes, c'est rare, donc je me fiais un peu à la réputation. Et quand je suis arrivée là-bas, quand j'ai vu... j'ai parlé avec des intellectuels qui m'ont dit « Le socialisme nous a transformés en bêtes de somme ». Je me rappelle ce mot russe « verbliuda », ça veut dire « chameau ». Le socialisme a fait ça de nous, c'est-à-dire... On m'avait raconté que les femmes étaient sur les échafaudages pour faire les travaux qu'on fait sur les façades. Mais moi, je trouvais ça une promotion, que les femmes et les hommes fassent le même métier. Mais après, quand j'ai vu comment elles étaient habillées, comment elles étaient exploitées... Alors évidemment, il y avait des travailleuses à l'honneur, mais bon, c'était pas ça l'égalité, parce que le pouvoir, c'était que des hommes. Ça se voyait quand même sur les photos.
Et donc, en fait, vous êtes devenue féministe très très jeune.
Oui, très très jeune.
Vous arrivez à savoir quand est-ce que...
Mais j'ai du mal, parce que c'était avant le mouvement français, avant 70. Ça a commencé comme ça. Ma mère nous parlait de sa mère, qui était professeure dans un lycée. Et dans ce lycée, ma mère nous racontait le concierge, qui était un invalide de guerre et un imbécile, disait de toutes les femmes très intelligentes et très intellectuelles qui étaient des professeurs ou de la directrice, le censeur, etc., qu'il était supérieur à elles parce que lui, il pouvait voter. Ma mère, disait-elle, ajoutait, le concierge, cet imbécile, pouvait voter et Marie Curie ne pouvait pas voter. Ça m'a marqué, ça. C'est des histoires qu'on entend à 10 ans. Marie Curie ne pouvait pas voter. Alors, le droit de vote en 1944, pour moi, c'est quelque chose de fondateur. Enfin, les femmes et les hommes ont le droit de voter et d'être élus. En 1944, il a fallu 96 ans pour obtenir ce droit, à égalité avec les hommes. Et donc, mon père disait un peu en rigolant que oui, c'était des propos féministes, qu'on était féministes. Eh bien, moi, je trouvais ça très bien, revendiquer l'égalité. Mais c'était vague encore, il n'y avait pas un mot dessus. Et puis, il se trouve qu'en 70, l'été 70, j'ai lu Le Deuxième Sexe, 1000 pages, et je l'ai lu comme une évidence. Et le 26 août 70, peut-être vous vous rappelez, il y a eu l'événement fondateur du féminisme français. Une bande d'hurluberlueux sont allés sur l'Arc de Triomphe déposer une gerbe à la femme du soldat inconnu. Alors, je lisais Le Monde tous les jours, je sortais de Sciences Po, et le 28 août, je lis Le Monde, et je vois ça, ce fait divers, quelques lignes dans Le Monde, et je me dis, voilà, c'est ça. Parce que je lisais depuis assez longtemps des nouvelles, mais j'avais du mal à me les procurer dans Le Monde. Et on entendait souvent parler de manifestations en Italie, aux Pays-Bas, en Angleterre, mais rien en France, jamais rien en France. Donc je me disais, quand est-ce que ça va arriver en France, les révoltes de femmes? Ça m'intéressait beaucoup, ce que j'entendais des échos. Mais rien du tout en France. Et même quand j'ai vu cette nouvelle, je me suis dit, oh, je veux les trouver. Mais comment les trouver, ces femmes-là? Je ne savais pas comment les trouver. Donc j'ai attendu, jusqu'à ce jour qui a changé ma vie. J'étais abonnée au Nouvel Obs, je reçois le Nouvel Obs, et sur la couverture, il y avait le manifeste des femmes qui ont déclaré « j'ai avorté ». Des 343 femmes. Je lis ce manifeste, je dépouille les 343 noms, et j'arrive à la fin, il y avait une adresse d'une boîte postale. Aussitôt, j'écris, donc ça c'était en avril 71, donc il m'avait fallu tout ce temps d'attente sans avoir aucune chance de trouver ces femmes. Et là, je vois, là, j'écris à l'adresse, je reçois une réponse, signé du MLF, et depuis, ma vie a changé. Depuis, je me suis engagée et je n'ai plus jamais arrêté mon engagement. Là, je pouvais me dire féministe engagée. Depuis avril 71, j'ai fait toutes les manifs féministes, j'ai fait le maximum de rencontres féministes, et surtout, je me suis engagée là où j'étais dans ma région pour le planning familial. J'ai rencontré à la même AG, on appelait ça AG, c'est-à-dire des réunions tumultueuses du MLF, j'ai rencontré des femmes du planning familial et des femmes d'un groupe femmes auquel je me suis jointe, et le planning familial m'a proposé une formation pour devenir militante au planning. Voilà, j'ai fait les deux en même temps.
C'était comment, socialement, d'être féministe à cette époque-là?
Oh, c'était très mal vu. C'était des excités, des hystériques, des braillards, de tout ça. Mais moi, je m'en foutais intégralement. Parce que ma grande force dans la vie, c'est que je me fous intégralement de l'opinion des gens qui ne comptent pas pour moi. Mais intégralement. J'ai mis un certain temps pour avoir cette indépendance d'esprit. Mais je me suis dit, c'est moi que je veux regarder dans la glace, moi qui je suis. Et ce que les autres pensent de moi, je m'en fous. À vrai dire, c'est plus vrai maintenant qu'il y a 50 ans. Mais c'est aujourd'hui que je parle et je projette sur un long chemin que j'ai fait quand même pour en arriver là assez vite. Le féminisme, c'est un mouvement radical, absolument radical. C'est-à-dire qu'on veut tout foutre en l'air et reconstruire sur la base de l'égalité. Pas aménager le système, tout foutre en l'air. C'est clair. Bon, on n'y arrivera pas tout de suite là et pas de mon vivant sans doute. Mais il s'est passé déjà tellement de choses que c'est ça. Le féminisme est un mouvement révolutionnaire. Je vous dis ça bien confortablement installé dans mon salon avec les témoignages de ma longue vie de luxe. Mais je considère que je suis beaucoup plus révolutionnaire que des socialistes en peau de lapin qui prônent des tas de valeurs de l'égalité et qui en fait exploitent des femmes dans leur vie quotidienne. Dans les AG aux Beaux-Arts, qui avaient lieu tous les 15 jours, on était bien à 200. C'est pas mal quand même. J'avais l'impression qu'on était quelques milliers dans Paris. C'est pas énorme, mais les révolutions, ça commence par des petits groupes. Moi, j'avais l'impression absolument grisante d'être au début d'une révolution. Enfin, que j'ai toujours cette impression qu'on est au début d'une révolution. On est toujours au début d'une révolution. On est toujours les hirondelles parce qu'on n'est pas nombreuses. C'est vrai, on n'est pas nombreuses. C'est vrai. Mais ça a diffusé dans les masses. Pas le mot féminisme, qui fait toujours peur, mais les idées d'égalité. Maintenant, on verra moins la femme qui reste debout à servir son mari à table. On le verra moins quand même.
Et comment vous vous nourrissiez intellectuellement de ces idées-là?
Je me suis abonnée à tous les journaux possibles. Je me suis abonnée à Mitz dès qu'il a paru aux États-Unis. Je me suis abonnée à Emma, le journal allemand. Je suis toujours abonnée d'ailleurs. Le Torchon Brûle, j'achète tous les numéros. Et puis tous les livres qui ont paru. J'essaie, enfin, pour me tenir au courant, ben, oui, il n'y avait pas Internet, d'accord, mais franchement, lire des livres, ça prend du temps.
Et voilà comment naît une féministe, une militante et une femme en pleine déconstruction. Florence est fascinante, elle a les yeux vifs et rieurs. Je bois son récit comme un lait au miel un soir d'hiver. Ça fait du bien d'écouter une militante aussi joyeuse et amoureuse de la vie.
Quand j'avais 15 ans, j'ai rencontré un garçon qui m'a dit, quelques semaines après, qu'il voulait m'épouser.
Vous étiez amoureuse de ce garçon ?
C'est-à-dire, il me l'a dit 15 jours après, vous imaginez. J'étais pas encore amoureuse, non. J'étais impressionnée de mon pouvoir, n'est-ce pas ? De faire tomber amoureux un garçon. Et je l'ai épousé, hein, je précise. Et donc...
À 15 ans, vous l'avez épousé ?
Non, à 19. Mais je précise parce que c'est pas, y a pas de suspense comme ça. À 15 ans, je rêvais de grand amour et tout ça. Bon. Mais c'est arrivé un peu trop vite quand même. C'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de rêver, que déjà j'étais dans le sérieux, le mariage. Mais comme ça allait très très mal à la maison... Je voulais partir de la maison et à cette époque-là, là je vous parle de 60, je l'ai rencontré en 63, l'année où je suis entrée en terminale, je voulais vraiment partir, mais à cette époque-là, on ne pouvait pas partir sans être mariée. Donc la seule solution, c'était de me marier. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi, beaucoup hésité et puis je voulais connaître d'autres garçons. Enfin, ça serait celui-là pour toute la vie, j'étais quand même...
Vous disiez ça ?
Oui, je me disais ça, oui, parce que je ne voyais pas... Le divorce, ça n'existait pas à cette époque-là. Dans ma classe, il y avait une seule fille de divorcée, une seule. Et on la plaignait de tout notre cœur. Alors, je pesais le pour et le contre, parce que... Donc, je n'étais pas vraiment amoureuse follement, si je pesais le pour et le contre. Mais en tout cas, lui, il était extrêmement amoureux et surtout extrêmement désireux de faire l'amour. Et alors, moi, je ruais des cas de fer parce que l'idée de tomber enceinte était inimaginable. Et la famille de mon père, c'est des catholiques. Il y avait 8 enfants dans chaque couple. Enfin bon, j'exagère pas toujours 8, mais en moyenne, il y en avait bien 6, disons, dans toutes les familles autour de moi. Et moi, j'en voulais pas d'enfants. J'en voulais pas. Mais j'avais du mal à faire comprendre ça à mon fiancé, que j'en voulais pas. Alors je disais, c'est pas pressé, il n'y a pas d'urgence, j'en voudrais pas tout de suite, sachant bien que si je lui disais que j'en voulais pas, ça n'irait pas. Je savais que j'en voulais pas, mais comment faire pour ne pas en avoir ? Alors donc j'ai résisté à la sexualité, parce que c'est bien gentil de découvrir le plaisir, mais si le prix à payer c'est d'être enceinte, autour de moi, les filles un peu plus âgées, elles tombaient comme des mouches et elles se mariaient enceintes. C'était effrayant. Au lycée, ça m'est vraiment resté sur le cœur. Je me rappelle, un jour, elle n'est plus revenue en classe pendant l'année. Et quand on a cherché, demandé à ses copines qui la connaissaient bien, et ben elle était donc tombée enceinte, comme on disait pas de notre temps. On employait des métaphores. On disait, il lui est arrivé un problème. Et elle va se marier très vite, et en tout cas, elle ne peut pas revenir au lycée avec un gros ventre. Donc c'était ça le prix à payer de la sexualité. Donc moi, ça me rendait carrément frigide, l'idée que si on allait trop loin, toutes les expressions, quoi. Et puis les grandes sœurs de mes amies qui se marient enceintes, C'était effrayant, effrayant, je voulais pas de ça. Ben, la seule éducation sexuelle qu'on avait, c'était entre nous. Mais je me rappelle une fille, parce que moi, comme j'avais 2 ans d'avance, j'étais avec des filles qui étaient beaucoup plus mûres que moi, beaucoup plus avancées. Et alors, je me rappelle une fois, une fille, je lui ai dit, qui avait déjà embrassé un garçon, je lui avais dit, ça c'était avant que j'aie 15 ans quand même, je lui ai dit, c'est comment ? Et elle m'a expliqué ce que c'était. J'ai trouvé ça dégoûtant, mais dégoûtant. Donc, à 15 ans, je donne et reçois mon premier baiser. Je ne trouve pas ça dégoûtant du tout, je trouve ça très agréable. Mais pour aller plus loin, eh ben ça, en revanche, je freinais. Mais quand même, au bout d'un moment, parce qu'il a beaucoup insisté. Et puis mes parents le voyaient d'un très bon œil. Il était très bien ce garçon, il avait un grand avenir, il était beau, il était très poli, c'était très bien. Enfin, c'était un mariage idéal, quoi. C'était tout à fait. C'était trop tôt, mais c'était bien. Donc, et puis je suis allée faire un stage à Moscou pendant un mois, et la séparation m'a fait me rendre amoureuse. Je me suis dit, oh, c'est trop triste d'être séparée. Bon, enfin bref, j'ai accepté de l'épouser. Et on a commencé la sexualité quand même. Mais alors, il m'avait promis juré qu'il ferait attention. Et ça, tout s'est bien passé. Simplement, un mois, j'ai eu un retard. J'étais morte de trouille. Et heureusement, j'étais pas enceinte. Mais j'étais tellement morte de trouille que j'en avais quand même marre de ça, d'avoir la trouille. Et ma mère a commencé à se douter qu'il se passait quelque chose. Parce qu'on faisait ça dans une grande discrétion, c'était vraiment terrible. Enfin bref, entre deux portes, quoi, c'était pas pratique.
Ouais, j'imagine, parce que...
Oui, dans une maison avec autant d'enfants. Enfin bon, il venait quelquefois dormir à la maison, je le rejoignais. Enfin, c'est pas du tout de bonnes conditions pour découvrir le plaisir. Mais il avait très 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 envie, lui. Et ma mère, se rendant compte, en tout cas, qu'il y avait un danger, a fait quelque chose d'héroïque. D'héroïque quand on connaît son parcours, de son ignorance de la sexualité, tout ça. Elle m'a emmenée au planning familial. Elle s'est renseignée, je ne sais pas comment, et elle m'a donné une adresse. Je suis allée au planning familial. Et au planning, on m'a donné une adresse. Je suis allée chez un gynéco. Maman m'a donné de l'argent pour payer. Et je suis repartie avec une adresse de pilule. Et j'avais 18 ans et demi. C'était en janvier 1967. La pilule venait d'arriver sur le marché pour guérir l'acné. La loi Neuwirth date de décembre 1967. C'était janvier 1967. J'ai commencé à prendre la pilule. J'ai eu une chance folle.
Donc en fait, le planning, il savait que cette...
Oui.
C'est juste qu'elle était...
Le planning a été fondé en 1956 en France, ça s'appelle la maternité heureuse. Et le planning, le nom c'est un peu plus tard, je ne sais plus, mais dans les années 60. Et toujours au même endroit, rue Vivienne. Et le planning a toujours eu des adresses de médecins compréhensifs. Puisqu'après j'ai beaucoup milité et on envoyait pour des avortements, donc je connais bien le système. Et donc il y avait des listes de gynéco compréhensifs.
Et qui savaient que...
Et qui savaient qu'il y avait une action contraceptive. Alors donc, cette gynécologue, elle me prescrit des pilules, elle me dit de comment les prendre, et que donc, au bout d'un mois, je serai sûre de pouvoir avoir des relations sexuelles sans grossesse. Je suis sortie en faisant des entrechats. Mais c'est pas possible, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et après, j'ai vraiment commencé ma vie sexuelle, parce que là, je pouvais y aller. Et donc, j'ai accepté de me fiancer. Le mois d'après, je me suis fiancée et je me suis mariée 5 mois après, donc à 19 ans, tout juste. Mes parents avaient une seule exigence, que j'aie une licence, parce que ma mère disait, il faut que tu aies un métier. Donc j'ai eu ma licence et je me suis mariée 15 jours après, bon, de russe. Et après, c'est une autre histoire. Après, j'ai fait le stage d'agrégation qu'on devait faire à l'époque dans un lycée, et j'ai découvert que j'avais pas du tout envie d'enseigner, parce que j'étais trop timide. Moi, j'aimais les livres et j'étais pétrifiée de trouille vis-à-vis de... Enfin, après, j'ai changé, mais à cette époque-là, j'ai donc renoncé à l'enseignement et j'ai préféré la recherche. Bon, je ferme la parenthèse. Mais donc, à 19 ans, je me suis mariée. Et le jour de mon mariage est arrivé quelque chose de tellement symbolique que je m'en souviendrai jusqu'à ma mort, de ce merveilleux défi que je lançais. c'était un mariage familial, donc c'était à une table, il y avait des tas de vieilles dames. Et ma belle-mère, qui était une vieille dame, enfin, avec qui je ne sympathisais pas du tout, parce qu'elle était extrêmement conformiste, elle m'a dit, devant tout le monde, « Alors, c'est quoi vos projets ?» Peut-être elle voulait simplement dire les vacances, mais moi j'ai compris mes projets de vie. Alors j'ai dit, alors d'abord je voudrais faire Sciences Po, après je voudrais terminer ma thèse de russe, après je voudrais faire langues au chinois, après je voudrais présenter le concours des affaires étrangères. Et elle m'a interrompue en s'esclaffant et en disant, mais ma pauvre chérie, avant d'avoir fait le quart de ça, vous aurez un enfant comme votre mère. Ma mère m'avait eu 9 mois et 15 jours après son mariage. Et là, avec le plus grand sérieux, je lui ai dit « Mais non, je prends la pilule, j'aurai des enfants quand je voudrais. » En juillet 67, avant que la loi passe, en décembre...
Personne ne connaissait, enfin...
Ben non, je prends la pilule, j'aurai des enfants quand je le voudrais.
Et alors, la réaction ?
Ben, ça a jeté un froid. C'est-à-dire que j'étais un ovni. J'étais une femme bon, très conventionnelle, avec une robe blanche, un voile et tout le bazar, même si j'étais pas vierge. Mais je prenais mon destin en main le jour de mes 19 ans, quand je me mariais. J'aurais pas d'enfant avant d'avoir fini mes études.
Et la pilule, il l'a pris comment
il a... Ah ben il l'a pris très bien, du coup, sexualité, il pouvait éjaculer sans problème, voilà. On a carrément amorti la pilule, mais dans les débuts, c'était formidable. Baigne dans un bain machiste. C'est vraiment... Le féminisme, c'est quand même une culture qu'il faut acquérir. Par exemple, moi, ça m'arrive encore, à mon âge, après 53 ans de féminisme, de voir une fille habillée de manière dingue et de me dire « Oh là là, s'il lui arrive quelque chose... » Bon, ben, je sais bien que c'est pas vrai, que c'est la faute du violeur, je sais bien, mais quand même, et des filles... Alors, enfin, voilà. Donc, quand même, ça revient.
Donc, du coup, à veille, vous vous en souvenez
Ah, oui. Ah ça oui, oui oui ça vraiment c'était les manifs qu'on a faites parce que ce qui m'énerve toujours quand on dit la loi Veil, je veux rien lui retirer, c'est là c'est sa loi, mais il y aurait pas eu sa loi s'il y avait pas eu nos manifs et je les ai toutes faites les manifs dans la rue. Oui, nos manifs la poussaient, donc c'est conjointement qu'on obtient des grands changements.
Et tout à l'heure vous avez dit que vous êtes devenue militante au planning.
Oui.
Et vous accompagniez donc avant la loi.
Ah oui. J'étais très excitée de faire des choses illégales à l'époque, j'étais un peu inconsciente. Et mes sœurs me regardaient avec indulgence et me disaient « Quand tu seras en prison, t'apporteras des oranges. » Mais parce qu'on leur donnait des adresses de médecins sympathisants qui faisaient des avortements en France. Et on savait bien que la liste, il fallait surtout pas la... Enfin, c'était, on savait bien qu'ils risquaient leur carrière. Et puis on s'occupait des cars pour aller aux Pays-Bas. Mais surtout... Et ça j'aimais beaucoup mieux, on leur faisait un baratin politique. D'abord, ce que j'ai beaucoup aimé, on les recevait en groupe, parce qu'elles étaient tellement nombreuses, vous ne pouvez pas imaginer. Quand j'arrivais au planning, à la permanence, la file de femmes qui est là avant l'ouverture du planning, est sur le palier, descend l'escalier, descend la courette, elles sont déjà 50 quand j'arrive à 14h. C'est hallucinant. Les bondes qui se sont ouvertes quand on a su que le planning s'occupait d'avortement. Et là, je me suis formée sur le tas. Et avant, j'étais très timide, mais là, j'ai... L'urgence a fait parce que j'avais la connaissance, je savais où les envoyer. Enfin, même si c'était compliqué, là, je vous le dis, je vous simplifie, hein, mais quand même, il fallait aussi qu'elles sortent de là avec une conscience politique. Enfin, bon, en tout cas, moi, c'était mon désir profond. C'était parce qu'on a rapidement analysé. Même avant la loi, à plus forte raison après la loi, ça a été horrible, qu'on allait se transformer en distributrice automatique de comment ça s'appelle ? Il fallait signer une attestation. Ben non, c'est pas marrant, on n'était pas des fonctionnaires à délivrer, on était des militantes. Je voulais amorcer chez elles un travail de conscientisation. C'est-à-dire, c'est pas le système D où je me débrouille, je trouve une solution. C'est pas ça le problème.
C'est de donner le pouvoir de prendre elles-mêmes leur destin et de mieux comprendre.
Voilà. Voilà. Que, d'abord, qu'elles recommencent pas à être enceintes 6 mois après. Donc, la contraception, bon, c'était très compliqué parce qu'elles n'étaient pas réceptives du tout à la contraception. Elles voulaient juste résoudre le problème tout de suite. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les cas que j'ai vus là-bas, ça m'a marqué pour toute ma vie. Je me souviens, le premier cas que j'ai fait toute seule, le premier cas, la fille était enceinte, elle n'avait pas été pénétrée, elle était encore vierge. Le garçon avait éjaculé sur sa cuisse. Et elle était enceinte et vierge. Vous vous rendez compte? Et puis après, quand j'ai ouvert une permanence là où j'habitais, parce que pendant 10 ans j'ai habité dans un village dans l'Oise, là-bas j'ai ouvert une permanence de planning où j'étais seule et où je recevais, alors là, la campagne profonde des années 70, le premier cas que j'ai eu, je me suis dit, si c'est tout comme ça, il va falloir une comment on appelle ça, un soutien moral et financier, psychologique, enfin un soutien financier, ça m'a échappé parce qu'elles avaient toutes besoin d'argent et je devais résister à leur en donner parce que c'est pas une solution. Enfin, je ferme. L'argent, c'était un énorme problème. Le premier cas que j'ai eu, la fille était enceinte de son père qui était aussi son grand-père. Vous voyez? Alors là, vraiment, là, on sait plus quoi faire, quoi. Quand on voit ce que des hommes peuvent faire, franchement, faut avoir le moral pour rester ami des hommes. Hein. Enfin, je connais beaucoup d'amis hommes qui disent « j'ai honte d'être un homme » quand je vois ce que font mes congénères. En 71, donc en avril 71, je rencontre en même temps des femmes du MLF et des femmes du planning. D'un côté, je m'engage dans des groupes femmes à réfléchir, et ça me fait le plus grand bien, à me rendre compte de mes privilèges.
Vous réfléchissez ensemble?
Oui, ensemble. On fait des groupes femmes. J'en fais tout le temps. Depuis 53 ans, je n'ai jamais arrêté de faire des groupes femmes. Un groupe femmes, c'est tout simplement un groupe de femmes qui se réunissent sur la base de la cooptation. Le nombre idéal, c'est 8-9, pas plus, mais pas moins de 5. Et là, maintenant, je l'ai un peu formalisé, donc je vous dis ce qui marche, parce que nous, on faisait autre chose, mais c'était il y a longtemps, on inventait. En fait, on inventait d'après le modèle américain. On nous avait parlé des consciousness raising groups, c'est-à-dire des groupes d'élévation du niveau de conscience, enfin de conscientisation politique, et on faisait ça, c'est-à-dire, on était à égalité, il y en avait une chez qui on était, donc celle-là, elle était un petit peu dominante, parce qu'elle recevait, elle accueillait, elle offrait à boire, et tout ça, bon. Mais on était à égalité dans la discussion et on parlait de sujets intimes dont on découvrait qu'ils étaient politiques et surtout dont on découvrait qu'ils étaient partagés. Parce que, je parle surtout des violences sexuelles, c'est ça qu'on découvrait avec ahurissement qu'on avait toutes subi des violences sexuelles. Et ça, c'était politique.
Mais ça devait être la première fois que des femmes parlaient entre elles de ces sujets.
En France, oui, aucun doute. En France. On levait le plus grand tabou qui puisse être, de se dire, moi aussi, MeToo, alors quand j'ai vu MeToo, ben nous on disait, ah, moi aussi, toi aussi, moi aussi, tout le temps on disait ça. Et on avait confiance en nous, on avait confiance les unes dans les autres, on savait qu'on voulait changer le monde, qu'on voulait le révolutionner sur la base de l'égalité et que la sexualité était le lieu de la plus grande oppression. Ça, on en avait pris conscience très vite. Que les mecs, et surtout, je me souviens, par exemple, il y en avait une qui nous racontait que, bon, pas elle, mais une copine, avait été violée par un noir et que les copains lui avaient dit « C'est un prolétaire opprimé, tu peux quand même bien t'écraser. » Si ça avait été un blanc, ça n'aurait pas été pareil. Mais un prolétaire opprimé, il fallait passer l'éponge. Voilà ce genre de débat qu'on avait entre nous pour se dire opprimé ou pas, c'est un violeur. Voilà, ce genre de raisonnement. On se disputait avec les gauchistes qui nous faisaient essayer de nous faire passer la pilule de... Vous voyez ?
Il devait y avoir un peu un sentiment d'excitation très fort d'avoir l'impression de construire quelque chose de...
Incroyablement fort. Incroyablement fort. Je vais vous donner un exemple de la force que ça a eu sur moi. J'étais une fois, parce que faut que je vous reparle du planning quand même. Donc d'un côté le groupe femmes et de l'autre côté la formation au planning. Donc au planning j'ai eu une formation en assistant une animatrice qui faisait le travail que j'allais faire. Et puis on avait des week-ends de formation où on discutait. Alors c'était un peu la même chose que les groupes femmes, sauf que c'était quand même plus institutionnel. Il y avait quelqu'un qui savait et qui nous dispensait quelque chose, et puis nous on discutait. Et je me souviens d'un de ces week-ends qui était tellement fort, où j'ai tellement pris conscience que le mariage était une aliénation, que pendant ce week-end j'ai enlevé mon alliance. C'est quand même fort, hein ? Tellement je me suis rendu compte que j'étais dans une prison, que... enfin, toutes sortes de choses, que je portais le nom de mon mari, que je me sentais mal, tout ça. Bon, et alors ? Quelques jours après, au MLF, je m'étais portée volontaire pour répondre au courrier, parce que les lettres, l'écriture, ça me connaît. Donc, on recevait des tas de lettres. On dépouillait les lettres et puis on avait mis au point des réponses types.
Okay.
Et puis je répondais au courrier, puis un jour on dit, ben, il faudrait des timbres, maintenant on va les acheter. Qui va les acheter ? Alors je dis, je vais faire un don, je fais un chèque au MLF sur le compte joint, monsieur ou madame, et le nom de mon mari. Quand mon mari découvre ça, il me fait une scène en me disant, mon nom sur un chèque pour un groupe gauchiste ? C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Alors, j'ai digéré ça. Quand j'affronte les obstacles, c'est jamais de front. Je cherche toujours, quand le rapport de force n'est pas en ma faveur, je veux dire, je cherche toujours à contourner, à essayer de trouver une solution. Et bien là, j'ai trouvé la solution. J'étais pas bien avec son nom, que je portais depuis 2 ans et demi. Mais à l'époque, on pouvait absolument pas imaginer de ne pas porter le nom de son mari. Et bien, je me suis dit, je vais reprendre mon nom. J'ai donc repris mon nom et ouvert un compte à mon nom. Ben, j'étais vachement fière de faire des chèques au MLF avec mon nom.
Et depuis
Ma vie a changé. C'est l'événement le plus important, personnel, décision personnelle de toute ma vie.
Et vous avez remis l'alliance ?
Oui, je l'ai remise après, parce qu'on a eu de bonnes discussions avec mon mari. Chaque fois que je rentrais d'un groupe femme, ça ne se passait pas très bien. Et après, je l'ai remise parce que je me suis dit que j'étais dans une prison dont la porte était ouverte. C'était très différent. Il m'a toujours dit qu'il m'avait choisi parce que j'étais originale. Ça, c'est sûr que je détonnais. Ça, c'est sûr. Parce que, par exemple, dans le petit groupe où on s'est rencontrés avec des jeunes filles à marier, des jeunes gens, etc., moi, j'étais pas coquette. Pas très coquette. Enfin, un petit peu, mais pas. Les autres filles, elles investissaient dans l'apparence. Elles passaient des heures à choisir des couleurs de robe, des rubans qui allaient avec leur robe. Enfin, bon, moi, ça me gonflait. J'avais 17 ans et je me disais cette chose qui est assez rare pour une fille. Je me disais, moi, j'investis dans l'intelligence, je fais des études. Quand j'aurai 60 ans, âge que je brûlais d'atteindre, j'en avais déjà marre, je voulais passer toute la période de fécondité et arriver à l'état où je suis maintenant, qui est la période la plus heureuse de toute ma vie, et chaque année c'est meilleur. Quand j'aurai 60 ans, eh ben, les seins qui tombent et les rides et tout ça, on les aura toutes. Crème de jour ou de nuit, tout ça, pareil. Hein, la vieillesse, c'est la vieillesse. Mais moi, je récolterai ce que j'aurais semé maintenant, mes études, et les trucs que je veux faire dans ma vie, etc. Et bien, j'ai eu vachement raison. Parce que j'étais pas très jolie, j'étais juste fraîche, enfin, comme on est... Et puis maintenant, je m'en fous intégralement. Parce que, une autre chose dont je me fous, hein, c'est-à-dire que la seule contrainte que je m'impose, c'est de pas grossir. Parce que là, ça c'est une question de santé. La santé, c'est mon corps, le seul que j'ai pour toute ma vie, et je tiens à ménager ma monture. On peut être une femme morte et fardée, moi je suis une femme vivante et sans maquillage.
Et quand vous avez atteint 60 ans
Quand j'ai atteint plutôt la ménopause, ben, non, c'est pas le jour où mon dernier enfant est parti, c'est le plus beau jour de ma vie. Il y en a qui ont des chagrins, moi j'ai 4 enfants, il y en a qui ont des chagrins et le syndrome du nid vide, oh moi je les poussais dehors. Je leur ai dit quand ils étaient adolescents, à 21 ans vous quittez la maison. Ils sont partis tous le plus tôt possible. Ah ouais, franchement les enfants, ils sont de passage. La vie est très très longue, mais elle est aussi longue après le départ des enfants enfin bref, ça fait 20 ans que le dernier est parti.
Mais juste, comment vous êtes passé de « je ne veux pas d'enfant » à « j'ai 4 enfants »
Mon mari voulait un enfant. Il a essayé de me convaincre par tous les moyens, parce que lui, il voulait absolument avoir des enfants. Il me disait « moi, je me suis mariée pour avoir des enfants ». Et je me disais, moi, je suis pas pressée, je voudrais finir mes études, je voudrais commencer ma thèse, et puis après, ça va durer 5 ans, je voudrais quand même... Mais non, alors je me suis laissée convaincre, finalement, je me suis laissée convaincre, et là, s'est produit un miracle. Quand elle est née, j'ai eu du mal à l'accepter au début. D'abord, j'avais jamais de ma vie donné un biberon, jamais de ma vie changé un enfant. Les bébés ne m'inspiraient pas du tout. J'avais jamais joué à la poupée quand j'étais petite. Et c'était des trucs pour petites filles de jouer à la poupée. Moi, il y avait les livres qui m'intéressaient. Donc, je vois cet enfant. Et mon mari, lui, était très doué de ses mains. C'était un bricoleur, c'était... Eh bien, il s'en est beaucoup occupé. J'ai pas voulu l'allaiter parce que je voulais pas être une vache à l'engrais. C'est ma mère qui disait ça. Il a donné des biberons, il l'a changé. C'est lui qui s'en est beaucoup, beaucoup, beaucoup occupé. Et petit à petit, tout doucement, quelque chose est né en moi qui s'appelle le sentiment maternel. Pas l'instinct, hein, le sentiment maternel. J'ai vu cette petite fille et je l'ai aimée. Et là, c'était une révolution intérieure, vraiment une révolution. Elle m'a conquise. Elle m'a apprivoisée, elle s'est fait aimer. Elle a changé ma vie, donc, parce que après, elle était tellement mignonne, mais tellement mignonne, que quand elle avait 8 mois, je me souviens très bien, qu'on disait, mais elle est tellement mignonne, mais ça serait bien si elle avait une petite sœur ou un petit frère, parce que vraiment, c'était un âge tellement merveilleux. Donc, on a fait un autre enfant, une autre petite fille, et là, mon mari m'a dit, alors c'est une histoire presque drôle, c'est que quand elle est née, j'étais sûre d'attendre un garçon, j'étais sûre d'avoir un fils, et puis comme ça, je me disais, 2, c'est parfait, ils joueront ensemble, sous-entendu, ils me ficheront la paix, ils joueront ensemble, et puis c'est fini, on arrête là. Et mon mari était bien d'accord, 2 enfants, lui qui était fils unique, 2, ça suffisait. Et quand elle est née, c'était une fille. Oh zut alors! Parce que j'avais changé d'avis, je voulais vraiment élever un garçon pour élever un garçon féministe. Alors je me suis dit, bon, eh ben j'en aurai un troisième. Mais mon mari n'était pas du tout d'accord. La 2, ça lui suffisait tout à fait. Donc j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à le convaincre d'avoir un troisième. Il a cédé avec mauvaise grâce. Et on a eu un troisième et c'était encore une fille. Alors, comme ma mère avait déjà 5 filles, c'était quand même, je savais ce que c'était et que c'était vachement bien. Donc j'étais un peu déçue de cette troisième fille. Et j'ai dit à mon mari, eh bien moi j'aimerais bien en avoir encore un. Alors là il a dit, c'est exclu, il n'en est pas question. Bon, et finalement, il a accepté l'idée d'un quatrième. Et c'était un garçon, cette fois-là. Donc j'ai eu la joie d'élever un fils féministe. Mais j'étais déterminée à continuer jusqu'à avoir un fils. Ah, je trouve ça merveilleux d'avoir les deux, de comprendre ce que c'est qu'un garçon qui peut devenir féministe. Parce que mon fils est féministe. Quand il avait 7 ans, les dames de l'école me disaient « On voit que c'est un fils de féministe. »
Et comment on le voyait alors?
Et c'est ce que je leur ai demandé, comment vous voyez ça? Et bien, ils me disaient « Dans la cour, il joue avec les filles et il n'est pas en train de prendre tout l'espace de la cour avec les autres garçons. Et il est gentil et avec nous, il est poli et respectueux. Avec nous. » Je me suis dit, si c'est ça, un fils de féministe, je suis très fière de moi. Je voudrais vous dire quelque chose de vraiment important, là, de politique, avant de revenir au planning. C'est pour ça que j'ai voulu témoigner, donc il faut vraiment que je vous le dise. Ma génération, moi je suis un peu en avance, mais ma génération a été la première à prendre la pilule et à pouvoir dire ce que je veux faire dans l'avenir, à pouvoir se projeter dans l'avenir. Ma génération est la première dans l'histoire de l'humanité, où les femmes ont pu dire, voilà ce que je voudrais faire dans 20 ans, avoir fait de ma vie, voilà ce que je voudrais être dans 40 ans, et je peux programmer mes enfants, mes grossesses, à peu près quand je voudrais. Pas, évidemment pas dans l'autre sens, pas si on s'y prend à 40 ans, mais quand on peut se dire ça à 20 ans. Ou si je décide d'en avoir après 35 ans, je sais que c'est plus difficile, par exemple. Mais ma génération est la première à avoir eu cette possibilité philosophique, à cause d'un progrès technique. Seulement, ce que j'ai observé depuis, c'est que les générations qui m'ont succédé avaient cette possibilité technique, mais n'avaient pas encore la libération dans la tête. C'est-à-dire qu'elles ont continué à faire des enfants pour de mauvaises raisons. Je ne dis pas que je les ai fait pour de bonnes raisons, hein. Je ne pense pas que... Mais elles ont fait des enfants... Parce que ça se fait, parce qu'un couple, c'est un couple sans enfant n'est pas un vrai couple, parce que se prolonger, ou je ne sais pas quelle raison imbécile on peut donner, il y en a des quantités pour retenir un homme, enfin, il y a des quantités de mauvaises raisons pour avoir des enfants. Et on se pose très rarement la question de l'intérêt, de l'intérêt pour la planète, pour l'humanité, pour tas de choses. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un enfant? Est-ce qu'on se pose vraiment la question? En général, enfin, je ne dis pas tout le monde, mais en général, c'est par conformisme. On se marie, on a des enfants. On ne se pose même pas la question. Et surtout, on ne se la pose pas en fonction de sa stratégie de vie. Parce que ça n'impacte pas beaucoup la carrière d'un homme. Un homme, il a des enfants, et bien il continue. S'il est capitaine, il deviendra commandant ou colonel, n'est-ce pas? S'il est... Bon, une femme, elle commence par envisager son métier, celui qui sera le plus pratique pour avoir des enfants. Toute mon enfance, ma mère nous a dit, professeur, c'est le métier idéal pour avoir des enfants. Bon, est-ce qu'on choisit son métier pour ses vacances? C'est quand même fou. On choisit son métier, quand on a la chance de pouvoir faire un métier qui correspond à ses aspirations, on choisit son métier parce qu'il va vous permettre de vous accomplir, de donner le meilleur de soi-même, de devenir une meilleure personne, plus riche, plus féconde dans son métier. Pas parce qu'il y a des vacances ou parce que... je sais pas quoi, enfin bon, donc c'est tragique. Et les femmes conçoivent toujours leur métier comme ça, toujours. Et elles se posent pas la question, tandis que les hommes, eux, ça n'impacte que très peu leur carrière. Mais les femmes d'aujourd'hui, elles ne sont pas encore libérées dans leur tête. Elles ont la possibilité de la libération. Mais alors là, je vais faire la vieille emmerdeuse, parce que celle qui chipote sur la pilule, non mais nom d'un chien, la pilule qui... Bon, je vous passe tous les préjugés sur la pilule. D'abord, il y a plein d'autres méthodes, que j'ai donc expliquées longuement au planning, ça, je vais revenir sur le planning. Mais est-ce que vous voulez revenir à la situation d'avant? Alors, est-ce qu'on veut revenir au mariage de, en 1900, il me semble me souvenir que 25% des mariages étaient avec des femmes enceintes. Voilà. 25%. Ça s'appelle des mariages forcés. Mais ne pas prendre une contraception sûre, c'est vraiment du luxe de se permettre ça. Parce que est-ce qu'on a le droit d'imposer à un enfant de naître ou risquer un avortement? Parce qu'un avortement, c'est pas une plaisanterie, c'est pas une sorte de contraception, c'est sérieux. Donc tout ça, je voudrais juste dire que j'ai eu la chance d'avoir à la fois la maturité intellectuelle, la capacité philosophique de prendre conscience de ma liberté et en même temps le moyen technique d'avoir cette liberté. Et bien que c'est la première fois dans l'histoire que ça arrivait et j'en étais très consciente. Que ce que je faisais, aucune des femmes qui m'a précédée ni qui m'a entourée ne le faisait. Et ça c'est quelque chose qui donne un grand sens de la responsabilité. C'est pour ça que je me suis engagée et que je n'ai cessé de m'engager et que ça sera avec mon dernier souffle que je cesserai de militer, parce qu'il faut que ce monde change et il faut faire changer les mentalités qui changent beaucoup moins vite que les possibilités techniques, là en l'occurrence.
Et il n'y a pas des moments où vous êtes fatiguée de cet engagement?
Ah ben non, non. Là, si je peux vous parler de mon engagement de maintenant, je vais vous dire ce qui me fait lever tous les matins. Parce que c'est comme ça que je pense. Tous les matins, je traîne au lit un peu. Et puis, hop, je pense à quelque chose et ça me fait lever immédiatement. En ce moment, je milite, et depuis 25 ans, je milite contre le système prostitueur. J'ai publié mon premier livre sur le sujet en 92. Donc ça fait longtemps que je suis engagée contre le système prostitueur, que j'ai analysé, comme je découvrais le sujet et que j'y connaissais rien, je l'ai analysé différemment de tous les gens qui m'entouraient sur le sujet, qui s'occupaient des prostituées. Moi, j'analyse le sujet d'une manière intellectuelle et je me dis, mais ce n'est pas un problème de femme, c'est un problème d'homme. C'est la demande masculine qui crée l'offre de femme. Bon, c'était très intellectuel et les gens qui m'entouraient ne comprenaient pas, donc j'ai écrit un livre là-dessus. Et puis après, je décide qu'il faut faire quelque chose. Il faut que les hommes, à cause de qui ce système existe, s'engagent contre ce système. Et donc je demande aux hommes autour de moi, aux hommes féministes autour de moi, faites quelque chose les gars, prononcez-vous contre ce système, faites quelque chose. Je mets des années avant de les convaincre et j'arrive pas à les convaincre. Donc en 2011, j'ai mis beaucoup de temps pour y arriver, je décide de faire le boulot moi-même. Donc je crée un groupe d'hommes, je leur dis, je les réunis, 7 par 7 ici, et puis je dis, qui veut faire quelque chose avec moi en tant qu'homme contre ce système. Et donc, ce mouvement existe depuis 2011, il s'appelle Zéro Macho, c'est un mouvement international d'hommes contre le système prostitueur et pour l'égalité hommes-femmes. Et nous avons axé notre action depuis 2 ans sur un sujet précis, un petit sujet parfaitement délimité et auquel on peut espérer, qu'on peut espérer se débarrasser. Les salons de massage asiatiques à Paris sont des établissements, il y en a 359. Bon, si vous regardez sur le site, vous verrez tout. Donc je suis entrée dans plusieurs centaines de ces salons. J'ai parlé un peu chinois alors avec les femmes qui sont là. J'ai fait tout un gros travail. Et j'ai surtout essayé d'alpaguer les hommes qui rentraient ou qui sortaient pour savoir qui étaient ces hommes. Des espèces de merdes prétentieux, bouffis, des machos qui croient qu'ils ont tous les droits. Enfin, c'est vraiment des mecs haïssables. Mais je parle avec eux d'humain à humain. Enfin, bon, je leur dis, j'hésite à aller me faire masser, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous me le conseillez? Pour voir un peu comment ils réagissent. Et il y a un seul mec, un seul, qui a assumé. Et c'est celui-là qui me fait lever tous les matins. C'était un mec qui avait à peu près 30 ans, qui était plutôt trop gros, plutôt moche, avec un gros blouson de cuir, une grosse gourmette, le genre vraiment vulgosse. Il monte sur sa grosse moto, il sort du salon, il monte sur sa grosse moto. J'arrive avec mon air de grand-mère enfarinée, là, et je lui dis « Alors monsieur, comment c'est ce salon? J'hésitais, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Il me regarde de haut et puis il me dit « Ouais, c'est pas pour vous. Moi je viens pour niquer, pour 120 euros j'ai niqué les deux. » Ce salopard me fait lever tous les matins. Il faut que ça change. Et donc, comme
vous êtes impressionnante.
Comme une féministe a toujours une pétition, je vais vous donner une pétition, ainsi que les autres à faire signer autour de vous. Et celle-là, que si vous ne signez pas, ça ne sera pas sympa.
Et donc, il suffit qu'elle vous rend.
Oui, c'est sur le site, on peut signer aussi sur le site. Ça, j'espère qu'on va y arriver. En tout cas, moi, j'ai planté les crocs là, et je ne les lâcherai pas. J'ai fondé le mouvement des chiennes de garde. Alors, planter les crocs, là, c'est rare que je le fasse, mais je ne lâche pas. J'ai tellement de chance. Mais imaginez-vous, est-ce que c'est possible? À mon âge, franchement, que personne ne me donne, pour vous dire, je rentre d'un pays où on ne me fait pas la réduction pour vieux. C'est quand même... Non, mais ils exagèrent, quoi, franchement. Bon, donc... Je me sens comme si j'avais 30 ans à l'intérieur, c'est quand même pas souvent le cas. Hein. J'ai une vie idéale. Alors, j'ai divorcé quand même au passage. Et j'ai vécu l'amour de ma vie. J'ai découvert l'amour, le désir et tout ça, et le plaisir, après mon mariage. Oui. J'ai découvert cette chose fabuleuse qu'est le plaisir, l'amour, le désir, etc. Bon, voilà. Bon, malheureusement, il est mort. Bon. Mais je vis maintenant de nouveau un amour merveilleux, avec quelqu'un qui me respecte, qui n'habite pas avec moi parce que c'est ma condition, parce que mon métier demande une solitude totale.
Donc ça y est, vous avez votre solitude, vos livres.
Ma chambre à moi, les 500 livres de rente, oui, j'ai ça. Ça fait 20 ans, ma chambre à moi, ma maison à moi, où les gens sont bienvenus, où mes enfants viennent de temps en temps, où mes amis, j'ai encore hébergé une amie hier soir, donc je ne suis pas seule, mais... J'ai la vie que j'ai toujours voulu avoir, mais c'est un peu difficile à formuler quand on se marie. Bah, mon rêve, c'est de vivre seule. C'est un peu difficile. Nous, on brandissait des pancartes. Un enfant, si je veux, quand je veux. Bon, c'est beau.
50 ans après, on se compte toujours les mêmes choses.
Voilà, 50 ans après.
50 ans après.
Les mentalités ne sont pas encore au point. Ouais. Les résistances sont les mêmes. Et pourquoi? Parce que ça, j'ai fait une réflexion politique et philosophique là-dessus. Pourquoi? Parce que l'avortement est la pierre de touche de la liberté des femmes.
C'est clair.
S'il y a une liberté totale d'avorter, on ne pourra plus les tenir, disait-il. Ben, ils ont bien raison. On ne pourra plus les tenir. On sera libre. Parce que la trouille de la grossesse, c'est quand même la grossesse qui peut être désirée, mais pas à ce moment-là. Ben, on les tient. On les tient par la peur. Et donc, c'est intolérable pour moi. Vous voyez, c'est ça qui me fait lever tous les matins. C'est que c'est scandaleux. C'est scandaleux, la vie des femmes dans le monde. C'est déjà compliqué d'être un être humain qui se développe, mais une femme, c'est des handicaps à n'en plus finir. Tout est matière à nous opprimer. Donc, comment est-ce qu'on peut dormir? Moi, je dors le minimum. Enfin, je dors 8 heures, parce qu'il faut être en bonne santé. Mais je n'ai pas le temps de faire d'autres choses. Et donc, il y a plein de choses qui... Quand on voit vraiment l'essentiel dans la vie, ben, il y a plein de choses qui valsent. Hein. Qu'est-ce qui est important dans la vie ? Ben, moi, je trouve que... Maman disait toujours, tu as... À qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Moi, je considère avoir beaucoup reçu. Et donc, je suis bien contente de vieillir parce que j'ai encore un programme de 25 ans très chargé. Mais j'espère rendre tout ce que j'y rends. J'ai été élevée par toutes ces grandes femmes. J'en ai rencontré enfin, des quantités. J'ai été très proche de Benoît de Groulx, qui était formidable. Puis maintenant, moi aussi, j'ai bien rencontré des jeunes. Pendant longtemps, je n'avais pas le temps de rencontrer des étudiantes, etc. Maintenant, je suis comme un monument historique qu'on visite. Alors, donc, je reçois des étudiantes pour leur raconter les débuts du MLF, leur parler de la joie que c'était. Parce que, bien sûr, on parlait d'horreur et de trucs terribles, bon, mais on s'amusait, on rigolait, on faisait nos slogans et nos pancartes, et on rigolait tout le temps. L'humour féministe, c'est l'outil des faibles. On peut juste se moquer des machos.
Je sais, ça paraît court une seule heure avec Florence. Sachez que ce fut un crève-cœur de couper des bouts de notre discussion. Alors, pour aller plus loin, je vous invite à lire les ouvrages de Florence et signer sa pétition. Je vous mets tout en description de l'épisode. En attendant, Florence, je voudrais te dire un grand merci pour ton courage, ton intelligence et ta générosité. Merci d'avoir nourri mon engagement et de lui avoir donné une plus grande profondeur. Le 28 septembre prochain, je scanderai comme chaque année un enfant si je veux, quand je veux, dans la rue, avec une pensée émue pour toi et tes camarades qui l'ont scandé il y a 50 ans.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à @mamiepodcast et par email à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.